Bonjour à toutes et à tous, je suis Étienne Tabagne, créateur et animateur du podcast Splash. Après quelques semaines d'absence, je suis de retour dans des circonstances très délicates avec la crise du Covid-19. Il nous a semblé judicieux avec toute l'équipe de Splash de rediffuser aujourd'hui un épisode qui éclaire notre situation actuelle. C'est l'épisode sur l'économie des hôpitaux que nous avons diffusé en décembre dernier. On pointait déjà dans cet épisode les problèmes de l'organisation actuelle de notre système hospitalier, notamment avec les réformes récentes qui visent à réduire les coûts et les gaspillages. Sauf que ces nouvelles règles de management n'ont rien d'anodin dans le domaine de la santé. Elles sont même aujourd'hui dramatiques quand on voit le manque de lits, de masques, de gants ou de gel hydroalcoolique pour le personnel soignant. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter ou de réécouter cet épisode et de prendre ensuite vos questions sur ce sujet sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram ou Facebook. Je répondrai ensuite à vos questions avec mon enregistreur tout seul dans mon appartement marseillais et on diffusera mes réponses rapidement dans un mini-épisode pour vous permettre de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe en ce moment. Prenez soin de vous, restez chez vous, ne prenez aucun risque inutile et je vous souhaite une excellente écoute.
Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco, avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Tourcoing, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission, c'est comme construire des hôpitaux privés à Marseille, on ne s'interdit rien. Bonjour Laurine.
Bonjour Étienne. Alors à la suite de ton épisode de Splash dans la saison 1 sur les lobbies pharmaceutiques, tu voulais continuer d'explorer l'économie de notre système de santé. Et avec les grèves récentes dans les hôpitaux, on s'est dit que c'était le moment de jeter un œil sur le milieu hospitalier.
Oui, depuis le début de l'année 2019, les personnels hospitaliers multiplient les grèves sur le territoire. La crise a touché plus de 200 services d'urgence en septembre dernier et la grève du 14 novembre 2019 a été très suivie dans les milieux hospitaliers.
Médecins, aides-soignants, étudiants en médecine, doyens, ils sont dans les rues de France ce jeudi.
Moi j'ai fini en pleurs il y a deux jours, à la fin de ma journée de travail, ça ne devrait pas exister.
Leurs revendications, augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés.
On se retrouve à tous s'épuiser. Nous on ne fait pas ce métier-là pour ça, on se fait ce métier pour pouvoir prendre en charge correctement des patients.
Sous pression budgétaire depuis des années, plombée par la grève des urgences, l'hôpital public souffre.
Avec des revendications qui portent sur les conditions de travail, la désorganisation des services, le manque de personnel et d'une manière générale, le constat d'être dans l'incapacité matérielle de soigner correctement l'ensemble des patients.
Pourquoi maltraitons-nous nos hôpitaux ?
La première réponse qui vient immédiatement à l'esprit pour expliquer la situation actuelle, c'est le manque de financement, tout simplement.
Oui, mais il y a toujours eu des déficits dans le financement de notre système hospitalier, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50 et 60, on se contentait d'augmenter les cotisations sociales pour assumer les dépenses croissantes. Mais à partir des années 70, on commence à s'interroger sur la manière même de financer nos hôpitaux. Pour en parler, je suis allé à Sciences Po, dans le 6e arrondissement de Paris, pour rencontrer Bruno Palier.
Bonjour, je suis Bruno Palier, donc je suis chercheur du CNRS à Sciences Po et je travaille sur les réformes des systèmes de protection sociale, notamment des réformes des systèmes de santé.
Pendant les 30 Glorieuses, le financement des hôpitaux fonctionnait selon le modèle du prix de la journée.
L'idée, c'était qu'on comptait combien de patients avaient séjourné dans un hôpital, combien de journées ou combien de nuits en fait ils avaient passé à l'hôpital et ça déterminait le montant global du budget. Donc on multipliait un certain tarif attribué par journée passée à l'hôpital, multiplié par le nombre de journées passées par patient et ça vous donnait le budget total de l'hôpital. On avait là l'idée qu'on ne savait pas très bien mesurer les coûts réels de ce qui se passait à l'hôpital, donc on le considérait un peu comme un hôtel, en fait. On regardait combien de personnes et combien de temps ces personnes restaient à l'hôpital pour déterminer le budget.
Au moins, c'était facile de déterminer le budget alloué à chaque hôpital.
Oui, sauf que ce système a vite présenté quelques défauts.
On s'est aperçu que un certain nombre de séjours à l'hôpital étaient moins justifiés par des besoins médicaux des patients que par le fait que plus un patient restait longtemps à l'hôpital, plus son budget, plus le budget de l'hôpital était augmenté. Donc il y avait ici un effet pervers du mode de financement qui consistait à garder le plus longtemps possible les patients pour faire augmenter la valeur du budget. Alors ça avait deux conséquences. D'une part, ça augmentait les dépenses de santé, mais d'autre part, ça ne permettait pas de répondre correctement à tous les besoins puisque vous aviez des lits un peu encombrés par des gens qui étaient là pour faire augmenter le budget. On peut prendre un exemple assez connu des accouchements. Donc à cette période du mode de financement des hôpitaux, vous aviez les personnes qui venaient d'accoucher, les femmes qui venaient d'accoucher, qui restaient jusqu'à une semaine à l'hôpital alors qu'elles n'en avaient pas forcément besoin dans les derniers jours.
Donc on change de mode de financement dans les années 80.
Avec ce qu'on appelle les budgets globaux. Voici comment ça marche.
On vous donne une enveloppe globale, qui est le budget qui vous est attribué pour l'année, qui est donc le budget qui vous est attribué pour l'année, et à vous, gestionnaire de l'hôpital, de vous débrouiller pour répondre à l'ensemble des besoins à partir de ce budget qui est fixé à l'avance. Dès lors, les incitations sont à l'opposé du mode précédent de rémunération, puisque désormais, il vous faut faire partir le plus vite possible les patients, puisque ça n'augmente pas votre budget, au contraire, ça encombre vos lits, ça engage des dépenses supplémentaires que de vous garder. Et là, on voit, toujours pour reprendre le même exemple des femmes qui viennent d'accoucher, une réduction drastique du nombre de jours ou du nombre de nuits pendant lesquelles les femmes qui viennent d'accoucher restent à l'hôpital, avec des situations un peu critiques puisqu'on se retrouve avec une moyenne qui est inférieure à 2 nuits pour les femmes qui accouchent dans les hôpitaux parisiens.
Alors là aussi, on abandonne ce mode de financement qui génère trop de pression sur les patients et sur le personnel soignant.
Et on se tourne au début des années 2000 vers ce qui se fait aux États-Unis pour concevoir la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité mise en place en France en 2004 par le gouvernement Raffarin. On réécoute Bruno Palier.
Donc l'idée, elle est relativement simple sur le papier, c'est-à-dire que quand on soigne quelqu'un, ça a un coût spécifique et donc il faut rémunérer les hôpitaux en fonction du coût engendré par ce soin particulier multiplié par le nombre de soins que l'on a dû effectuer pour différentes personnes. Sauf que le soin, il est variable suivant les différents hôpitaux et donc on se dit très vite que c'est pas le soin qu'il faut rémunérer, mais c'est le diagnostic, c'est-à-dire quel est la maladie que l'on a diagnostiquée. Et donc, on met en place l'idée qu'il faut rémunérer les hôpitaux en fonction d'un groupe homogène de malades, qui est une espèce de traduction de la notion américaine de DRG, de Diagnosis Related Group. Donc, il y a des groupes plus ou moins homogènes de diagnostic qui correspondent à un ensemble de personnes qui ont le même diagnostic, qui sont traitées par un hôpital.
Si je comprends bien, les pouvoirs publics calculent le coût moyen de chaque activité et attribuent des financements en fonction de l'activité réelle des hôpitaux.
Et ensuite,
je vous donne un budget qui correspond au coût moyen du type d'activité que vous menez. Et à charge pour vous d'arriver à mener ces activités pour un coût inférieur que ce coût moyen, et le surplus que cela générera reste chez vous pour gérer vos investissements, notamment vos rénovations, etc. Donc on a ici un mode de rémunération qui se veut être au plus près de l'activité réelle des hôpitaux, mais qui a pas mal d'effets en conséquence.
Lesquels ?
Certaines activités rapportent plus que d'autres, ce qui a tendance à pousser les hôpitaux à privilégier ces activités-là.
On a ici un exemple bien connu, toujours pour reprendre les accouchements. La tarification par la sécurité sociale d'un accouchement par voie naturelle est inférieure pour les hôpitaux que la tarification par césarienne. Donc vous êtes ici dans une situation où l'incitation pour l'hôpital est d'essayer de faire pression sur les professionnels pour mieux organiser leur soins d'accouchement, pour passer plus souvent par des césariennes de façon à programmer les accouchements, mais aussi à obtenir une plus grande rémunération. Il faut ici noter que les médecins ne voient pas la différence, puisqu'eux-mêmes sont rémunérés de la même façon qu'ils fassent un accouchement par voie basse ou par césarienne. Mais par contre, pour les hôpitaux, cela signifie plus de rémunération. Donc vous avez ici une incitation économique à plus d'activités, à spécialisation sur les activités les plus rémunératrices, qui peuvent introduire des spécialisations qui délaissent certaines activités, pour autant qu'elles étaient mal tarifées par la sécurité sécurité sociale.
Et on en arrive à près de 20% de césariennes depuis 10 ans, avec des risques associés pour la mère et l'enfant. Pourtant, le taux de césarienne nécessaire pour des raisons médicales est estimé à entre 10 et 15%.
Alors à quoi, là ?
Je vais accoucher.
Elle va accoucher. Ben non, elle va pas accoucher. Pourquoi elle va pas accoucher ? Parce que le service maternité, il a fermé il y a 3 mois.
Et c'est ce que confirme le personnel hospitalier sur le terrain. Par exemple, Quentin. Il est pédopsychiatre à l'hôpital Édouard Toulouse, dans les quartiers nord de Marseille. Il m'a raconté, autour d'une bière, ce qu'il a pu observer dans sa carrière.
J'ai un souvenir très concret sur un certain nombre de médicaments qui étaient prescrits en intraveineuse, en perfusion, parce que ça rapportait plus à la clinique de coter le fait qu'il y avait une pause de perfusion plutôt que de coter le fait qu'on avait donné un traitement, parce que probablement que l'acte rapporte plus quand on pose une perfusion, un acte infirmier effectivement technique qui demande un certain nombre de connaissances, que quand l'infirmier vient simplement vérifier que le traitement oral a été pris. Alors que pour ces traitements-là, il n'y avait pas forcément de supériorité à le patient intraveineux ou au niveau de l'efficacité, de la biodisponibilité.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Étienne. Si le coût moyen de l'activité est correctement calculé, toutes les activités devraient rapporter la même marge aux hôpitaux.
Oui, sauf que c'est très difficile de calculer correctement le coût moyen de chaque activité, comme l'explique Bruno Palier.
Parce que c'est très très compliqué d'évaluer correctement le coût que représentent les soins mis en face d'un diagnostic particulier. Parce qu'il faudrait en fait suivre l'activité réelle de chacun des professionnels engagés autour de ces soins, qu'il faudrait être capable aussi d'y intégrer dans ce coût les coûts structurels, électricité, frais de personnel généraux, etc., et de le diviser par le nombre de soins. Et c'est très rare que l'on puisse faire ça, ça demande beaucoup de temps, et ça demanderait beaucoup trop de temps à la sécurité sociale. Il y a des chercheurs qui ont fait cela pour certains soins spécifiques, comme Martine Bélanger, par exemple, à Rennes, qui a suivi plusieurs hôpitaux, et elle s'est aperçue que pour le même diagnostic, vous avez des soins qui reviennent à 2 fois plus de coûts dans un hôpital plutôt qu'un autre, ce qui amènerait évidemment à une comparaison et à une réorganisation des soins. Mais là, c'est un travail de fourmi qui consiste à suivre chaque professionnel. Il y en a beaucoup engagés autour d'un soin particulier, d'un diagnostic particulier, et évidemment, la sécurité sociale n'a pas les moyens de faire ce suivi extrêmement pointilleux et ce travail de fourmi. Du coup, on fonctionne sur des moyennes et il peut très bien arriver qu'on n'arrive pas à évaluer correctement les choses.
Donc, si je résume, le système de tarification à l'activité modifie en profondeur notre système de soins. Certains hôpitaux abandonnent quelques services pour ne garder que les spécialités qui rapportent le plus et dans lesquelles ils sont le plus productifs. On a tendance à privilégier des actes de soins qui, eux aussi, rapportent le plus. Et les directions des hôpitaux trouvent toutes les solutions possibles pour diminuer les coûts de soins, de façon à dégager des surplus.
Et ces solutions, elles sont simples et dramatiques à la fois. On ferme des lits et on réduit les équipes de personnel. C'est ce que vit Quentin au quotidien.
Un des gros problèmes de cet hôpital, c'est que c'est le manque de médecins, parce qu'il y a une quinzaine de postes, je crois, qui ne sont pas pourvus. Donc, dans ce service de pédopsychiatrie, ça veut dire qu'il y a, pour le moment, un certain nombre de structures où il n'y a pas de médecin. Il y a quand même des enfants qui viennent, il y a quand même des soignants qui sont là, mais il n'y a pas de médecin. Et sur l'hôpital en général, ça concerne là vraiment les lits d'hospitalisation psychiatrie, il y a aussi de nombreux services où il n'y a pas les effectifs médicaux suffisants. Donc, les conditions de travail... Elles sont particulièrement impactées parce que ça veut dire qu'on est tous amenés à aller au-delà d'une certaine façon des postes qui nous sont à la base attribués. On doit gérer des situations de structures qui ne sont pas celles dont on a normalement la charge, mais qui du coup, faut bien quand même s'en occuper, quoi.
D'où les conditions de surcharge de travail dénoncé par les personnels en grève.
Alors, c'est à qui le tour ?
À moi. Ça fait 4 heures que je suis là.
Ah, vous venez d'arriver. C'est de l'humour médical. Médecin va pas tarder.
Ce qui engendre une augmentation des tâches administratives à faire. Par exemple, chercher des lits, soit dans son hôpital, soit dans les hôpitaux avoisinants.
on passe un temps incroyable à chercher des lits. Donc, j'ai même travaillé dans un hôpital avant où il y avait, ils ont fini par payer un poste de gestionnaire de lit. C'est-à-dire qu'on adressait la demande à quelqu'un qui passait son temps à appeler pour chercher une place quelque part. Ça pouvait être même au sein même de l'hôpital concerné, sinon bah, en appelant les hôpitaux de toute la région. Enfin, il y a quand même un certain nombre de situations de crise qu'on peut soigner qu'à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose qui sera toujours incompressible.
Alors, est-ce que demain, j'ai besoin du lit pour M. Boulard
hein, pour... Non. L'opération de M. Boulard a été reportée une semaine.
Hein. Ah bon. Bon, ben encore une petite semaine de repos, Madame Follignon. Hein? Et après, on sera en pleine faux forme. Allez, au revoir. Au revoir, Monsieur Bayeux.
Bon, il est certain que lorsque les clients, les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous.
Et la rémunération à l'activité oblige les personnels à déclarer tous leurs gestes de soins. C'est-à-dire que les personnels passent désormais beaucoup de temps à côté, c'est le terme employé, tous leurs actes sur des logiciels.
Donc, les personnels sont en nombre insuffisant et doivent pourtant faire de nombreuses tâches administratives, avec des ressources limitées comme le nombre de lits. Et alors, ils en arrivent parfois à refuser les patients par manque de lits ?
Refus de soins, non. Mais on va développer les soins hors hôpitaux, c'est ce qu'on appelle les soins ambulatoires. Par exemple, en pédopsychiatrie, on va envoyer plus rapidement les patients chez eux, avec des protocoles à respecter, par exemple pour la prise de médicaments. Et ce sont les personnels soignants qui se déplacent pour vérifier l'état du patient.
Ça diminue les coûts, d'accord. Mais est-ce que c'est mieux en termes de santé pour les patients ?
Justement, c'est bien ça le problème. Dans le cas du service de psychiatrie de Quentin, le service hospitalier est un milieu protégé par rapport à une situation qui peut être difficile à vivre chez soi. Renvoyer les patients chez eux trop tôt, c'est prendre le risque de rechute ou de crise et donc de les voir ensuite revenir rapidement. Quentin explique qu'il existe sans doute d'autres solutions que le recours systématique à des soins ambulatoires.
On peut aussi... se servir de l'hôpital comme d'un lieu qui permet aux gens d'aller vers l'extérieur. Enfin, il y a aussi une façon d'utiliser l'hospitalisation qui peut possiblement faire en sorte que les gens sortent moins en crise et donc aient moins de chances de revenir. Il y a des unités d'adolescents où, je me souviens aussi, on pouvait faire des hospitalisations séquentielles, c'est-à-dire que chez des adolescents en crise, on savait que tous les mois, il y avait 3 jours d'hospitalisation, ce qui permettait, plutôt que de ne venir qu'en crise, au moment où vraiment on n'a pas le choix, ou de toute façon, d'avoir un lieu, à la fois pour la famille, pour le jeune, où on savait qu'il allait être protégé. C'était un relais pour l'extérieur et pour... Tout ça pour dire qu'il y a des façons très inventives aussi de se servir de l'hospitalisation complète. Et que ça peut aussi avoir une fonction, à mon avis, très économique dans le développement de la crise.
Ce que tu es en train de nous dire, Étienne, avec les exemples donnés par Quentin, c'est que cette recherche d'économie à tout prix peut s'avérer contre-productive. Parce que les soins insuffisants en amont se traduisent par des soins à faire en plus ensuite. Et donc, des coûts au total supérieurs.
Exactement. D'un point de vue purement économique, l'organisation actuelle est loin d'être optimale. Si vos personnels travaillent dans de mauvaises conditions, avec une surcharge de travail importante, en faisant certains actes pour des raisons de rentabilité, les soins administrés sont de moins bonne qualité.
On voit très bien la fracture, en effet. Et ici, par contre, vous voyez comme ça a très bien réussi, la pose des broches, avec cicatrisation impeccable. Il a un pied gauche tout neuf.
Non, droit.
C'est
le pied droit.
Ça, c'est le pied droit.
Qui était cassé.
On n'accuse évidemment pas ici les personnels soignants qui sont très compétents en France. Mais dans des conditions de travail difficiles, des soins insuffisants peuvent ensuite entraîner des complications pour les patients et donc des dépenses futures potentiellement importantes. Et c'est exactement ce qu'a dit Quentin à la fin de notre interview.
En tout cas, je ne sais pas si on a déjà mesuré ça, pour le coup. Est-ce qu'on a mesuré... Le taux de récidive dans des structures où on prend le temps, où on propose des hospitalisations séquentielles, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse.
Alors Étienne, ça a été mesuré ça par des économistes ? Est-ce qu'on est capable d'évaluer la qualité des soins donnés sur une longue période ?
Eh bien, on commence sérieusement à y réfléchir, nous explique Bruno Palier.
Là, il y a une réflexion qui s'est développée depuis un certain temps, dans, là encore, d'abord aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et puis un peu partout, ce qu'on appelle la « value-based médecine ». Donc, on essaye de plutôt être capable d'établir la qualité de la prestation, et plus celle-ci est élevée, plus d'offrir une rémunération élevée. Alors Agnès Buzyn, puisque c'est elle la première ministre de la Santé, a dit qu'il faudrait essayer d'introduire des critères de qualité dans la rémunération des hôpitaux. C'est un souhait qui est partagé par beaucoup de pays, mais qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, puisque la question qui se pose immédiatement, c'est de mesurer cette qualité, et elle est très difficile. Il faut à la fois mesurer les résultats obtenus, mais aussi la satisfaction des professionnels, la satisfaction des patients, et ça nécessite toute une révolution à l'intérieur du système hospitalier, qui n'en est qu'à ses balbutiements.
En bref, on est encore loin d'avoir trouvé la solution ou la méthode optimale pour financer les soins hospitaliers.
En tout cas, pour faire en sorte que le mode de financement des soins n'ait pas d'influence sur l'objectif de tout hôpital, soigner le mieux possible.
Et le système de la tarification à l'activité montre ses limites. C'est pourquoi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a récemment annoncé vouloir y mettre fin et le remplacer par un autre système de financement plus efficace. Mais est-ce que c'est vraiment possible de se donner l'objectif de toujours mieux soigner tout en faisant des économies ?
C'est toute la complexité de ce débat. D'un côté, en tant que patient, on est prêt à dépenser de l'argent pour être soigné au mieux. Mais on est aussi contribuable et on aimerait que le système de soins soit efficace et évite toute forme de gaspillage. Ce qui pose deux questions. 1. Combien est-on prêt à dépenser au total pour financer notre système de soins publics ? Et 2. Comment trouver le meilleur mode de financement pour rendre ce système efficace et économe, sans que l'objectif final, qui est de soigner, ne se retrouve au deuxième plan, derrière l'objectif de réduction des coûts. C'est un équilibre très délicat à trouver, sur lequel planchent encore les économistes. Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission de moi, Étienne Tabagne.
Co-animée et co-écrite avec moi, Lorraine Melka.
Produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux. Montée et coordonnée par Marine Rowe. Mixée par Laurie Galligani.
Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast. Et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !